Ça ne veut pas dire que ce sera notre dernière étude nécessairement. Nous aurons peut-être une étude encore sur l'intégralité du livre et sa signification prophétique la semaine prochaine. Vous vous souvenez que Josué était vieux. Il arrivait à l'âge de 110 ans. Et son souci, c'était de transmettre la foi au peuple qui restait après lui. Notre pasteur Chuck Smith a un souci similaire. Il a vu l'œuvre de Dieu en première main. Il a vu un réveil toucher toute une génération de jeunes aux États-Unis. Ces jeunes ont vu comment Dieu répondait à la prière, à la consécration. Mais l'homme est ainsi fait que ce genre de réveil atteint rarement la génération qui suit. Et il essaye d'expliquer ça en disant que trop souvent lorsqu'on est béni, en général le Seigneur bénit sur tous les plans. Parce que c'est sa nature de bénir. Donc il bénit spirituellement. Et il bénit aussi matériellement. Et les parents qui sont bénis matériellement et spirituellement ont tendance à vouloir bénir leurs enfants matériellement aussi. Et quelque part, ils sont un obstacle à ce que les enfants aient à compter sur le Seigneur. Leurs besoins sont remplis par leurs parents. Ça devient pour les parents une priorité, on veut qu'ils manquent de rien. Ils entendent parler du Seigneur, de sa générosité, de sa fidélité. Et souvent, ils n'ont pas à dépendre de cette fidélité, de cette générosité. Et dans le désir de bien faire pour nos enfants, on peut leur faire du tort. Non, du tort. Wrong. Est-ce que ça veut dire qu'on doit les laisser sans ressources, sans... Je ne crois pas, mais nous devons prendre garde. Et c'est vrai que le pasteur Chuck Smith, son grand souci maintenant, c'est de passer cette foi qui a été reçue par sa génération, non seulement à la génération suivante, mais à la troisième génération. Et c'est vrai que nous sommes un peu comme une première génération en France.
Like France.
Et nous avons pu voir la merveilleuse provision du Seigneur pour nous aider à obtenir ce local et à l'aménager. Nous voyons que le Seigneur répond aux prières, qu'il bénit l'annonce de sa parole. C'est quelque chose que les églises établies n'ont pas pu faire l'expérience en première main. C'est là, il y a 3 générations qu'ils ont pu avoir ce grand bâtiment qu'ils ont maintenant. Donc nous devons cultiver cette reconnaissance envers ce que Dieu fait au quotidien. Pour voir sa présence parmi nous. Nous avons avec nous Anna, qui vient de passer un mois pour nous aider dans l'église en stage. Elle vient de l'église de Ziegen. On connaît, pour certains, vous connaissez le pasteur Nick et sa femme Sue, qui sont déjà venus aux Enfants de la Montagne. Et là aussi, lorsqu'on voit toutes les portes que le Seigneur ouvre pour son ministère, on voit que Dieu est réel, qu'il est vivant, qu'il a un plan, qu'il a des projets pour la jeunesse en Allemagne. Est-ce que vous avez un plan pour votre vie, une vision que vous voulez impartir à votre vie pour le servir, pour voir des résultats, pour voir du fruit? Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander dans la prière qu'il vous la donne. Venez aux réunions de prière. On se réunit ici tous les jeudis soirs à 20h. On voit les réponses quand on connaît les questions, les demandes qui sont faites. Encore avant-hier soir, nous avons reçu un coup de fil de Stéphanie, cette jeune fille qui attend pour venir. Et là, elle nous a appris que son soutien est arrivé et qu'elle peut enfin maintenant attendre, c'est plus qu'une question d'obtenir son visa pour venir ici. C'est une réponse à des prières. Mais si vous n'êtes pas là lorsque les prières sont prononcées, vous ne savez pas que c'est une réponse. Et donc, Josué, il a ce souci de faire perdurer ce réveil qui s'est produit, ces choses merveilleuses qu'ils ont vécues, l'entrée enfin en terre promise. On a vu qu'il avait déjà rassemblé les responsables de la communauté d'Israël. Pour les mettre en garde contre le refroidissement. Le refroidissement, on a dit que c'était, un autre mot, c'était la rétrogradation. On a dit que c'était comme une petite fuite dans une chambre à air. C'est imperceptible, mais c'est irrévocable. Et si on ne fait rien, on va se retrouver complètement à plat.
Nothing, totally.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va maintenant rassembler toute la communauté. Et il va leur laisser un message d'adieu. Il va les exhorter à servir Dieu. Je crois qu'à travers les siècles, ce message, il nous l'adresse à nous aussi. Parce que nous allons voir qu'à la fin, Dieu lui a fait écrire dans la parole de Dieu, dans la loi de, dans le livre de la loi. Et Josué va utiliser plusieurs arguments pour éviter qu'il ne s'éloigne de Dieu. Ce qui est toujours formidable lorsqu'on voit ces récits, c'est de penser qu'il s'adressait ainsi à des foules sans aucun système de son. Mais il y avait un endroit, si vous vous souvenez, en Israël où la sono naturelle était très bonne. Il y avait une vallée avec deux montagnes. On l'a déjà rencontré dans le Deutéronome. Et Josué les avait déjà rassemblés là pour leur lire la loi de Dieu, les 10 commandements et les promesses de bénédiction et de malédiction suivant qu'ils obéissaient à ces commandements ou non. Cette ville, c'est la ville de Sichem, ou Sichem, mais on va dire Sichem en français. Et il les avait déjà réunis là au chapitre 8 de Josué. Cette ville, nous avons vu qu'elle était, elle avait été désignée comme des 6 villes de refuge. Il y avait le mont Ebal et le mont Garizim. Et cette ville avait joué un rôle important dans l'histoire des patriarches. C'est là que Dieu avait promis la terre promise à Abraham la première fois. Genèse 12, 6. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Plus loin, on voit Jacob dans la Genèse 33 qui, après s'être échappé des dangers de Ésaü, il se retrouve dans la ville de Sichem qui est dans le pays de Canaan et il acheta là une pièce de terre où il avait dressé sa tente pour 100 pièces d'or et là il y plaça un autel qu'il appela El Eloé Israël. Genèse 33, 19 et 20. C'est là aussi que Jacob avait exhorté sa famille à se débarrasser des idoles qu'elle transportait encore.
And
Il y a ce passage dans Genèse 31 où Laban, le double beau-père de Jacob, le poursuit pour retrouver ses dieux. Genèse 31, à partir du verset 30 à 35. Rachel, apparemment, avait pris ce qui est appelé les teraphim, donc des idoles. Et elle.
Ouais.
Elle les avait cachées sous son siège. Et quelqu'un a fait remarquer, c'est terrible quand on peut voler vos dieux. Quel genre de dieu est-ce là? Et lorsque, un peu plus loin dans Genèse 35, Dieu envoie Jacob vers Bethel. Là encore, il demande à Jacob de doter les dieux étrangers, les petits dieux, les idoles qui sont encore au milieu de sa famille. Et donc c'est là que Jacob a déjà caché des idoles, il les a enfouies sous le chêne qui est près de Sichem, de Genèse 35:4. Dans le livre des Juges, au chapitre 9, verset 6, on verra qu'ils vont se réunir encore une fois dans cette ville de Sichem, près du chêne de la pierre dressée à Sichem. Et donc Josué, verset 1 du chapitre 24, rassemble toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoque les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Et pour les inviter à une consécration totale envers Dieu, Josué, comme je l'ai dit, va utiliser plusieurs arguments, dont le premier, ça va être de se rappeler de la bonté passée de Dieu. The goodness of the Lord. Et nous aussi, ça peut être un sujet de consécration, de reconsécration, lorsque nous réfléchissons à toutes les choses que le Seigneur peut faire, a fait déjà dans notre vie. Et donc, il leur rappelle qu'ils sont partis en fait de... Ils étaient avant, ils venaient d'un peuple idolâtre. Et donc verset 2, il leur dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve, c'est le fleuve Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. Verset 3, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné en propriété à Ésaü la montagne. Quel beau programme! C'est un verset que l'on retrouve souvent sous forme de petits tableaux ou de que l'on peut mettre chez soi. La réponse appropriée, c'est donc d'abord de craindre Dieu. Encore une fois, ce n'est pas une peur panique d'un tyran qui va se fâcher. Mais c'est une crainte respectueuse de Dieu. La Bible parle beaucoup de la crainte de Dieu. Elle dit que c'est le commencement de la sagesse. Psaume 111. Il dit que la Bible dit que c'est une source de vie. Pour s'écarter des pièges de la mort. Proverbe 14, 27. Il y a eu des études de fait aux États-Unis qui montrent que les chrétiens vivent plus longtemps que les autres. Ce qui est un peu logique, ils ont une vie plus saine. Ils ne s'adonnent pas à l'alcool ou à la drogue. Des tas de maladies peuvent être évitées. La crainte de l'Éternel est une source de vie. C'est aussi le secret d'une vie bonne, parce que la crainte de l'Éternel, dit le Proverbe 8:13, c'est la haine du mal. Hatred of evil. C'est aussi le secret d'avoir une vie pleine de confiance en Dieu. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance. Proverbe 14, 26. C'est la vraie prospérité. Proverbe 15, 16, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor, avec le désordre. Donc, Josué leur dit, en fonction de tout ce qui a été fait par Dieu, voyez sa puissance, voyez son influence, respectez-le, craignez de désobéir ses commandements. Et il leur dit surtout, encore une fois, ôtez les dieux de vos ancêtres. Rejetez l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean termine sa première lettre en disant, petits enfants, gardez-vous des idoles. Comment on se dit souvent ça, les idoles, les statuettes, ça c'est bon pour les peuplades primitives. Et que ça s'applique, ce ne sont pas des instructions qui s'appliquent à nous-mêmes. Mais une autre définition d'une idole, c'est une passion maîtresse dans votre vie. Master, passion. Quelque chose qui contrôle vos efforts, à quoi vous pensez sans arrêt. Comment savoir si on a des idoles ? ou une ou plusieurs idoles dans notre vie. Il faut regarder l'allocation des ressources que j'ai. Qu'est-ce que je fais de mon temps libre, de l'argent qui me reste après que les nécessités de la vie sont remplies, où est-ce que je mets tous mes efforts? Parce que lorsqu'on a des dieux ou le vrai Dieu, automatiquement nous allons servir. Le grand théologien Bob Dylan l'avait dit, il avait chanté: You're gonna serve somebody. Vous allez servir quelqu'un. Ça peut être Dieu, ça peut être le diable, mais sachez qu'automatiquement, que vous le vouliez ou non, vous allez servir quelqu'un. Et Josué leur dit: servez qui vous voulez, mais moi et ma famille, nous avons fait notre choix, nous allons servir le vrai Dieu, nous allons servir l'Éternel. J'aime bien ce que John Corson fait remarquer, ce pasteur que j'aime bien citer. Josué ne dit pas je vais parler à Madame Josué. Pour voir ce qu'on va faire. Il ne dit pas non plus nous allons voter avec les enfants. Il prend la direction des choses en tant que père, en tant qu'homme, père de famille. Nous avons une responsabilité spirituelle devant Dieu. Trop souvent, l'art d'être parent aujourd'hui se base sur l'égoïsme du parent. Parce que ce qui nous importe le plus, c'est le désir d'être aimé par nos enfants. Et pour ne pas les contrarier, pour éviter la confrontation, on est prêt à tout leur laisser passer. En plus, c'est dans l'air du temps. C'est la mode, il faut être moderne. Et pourtant, en tant que parents, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Il doit y avoir des limites, il doit y avoir des choses qui ne sont pas négociables. Notez bien que ça commence par moi. Moi et ma maison. Souvent, on aimerait que nos enfants soient plus spirituels que nous ne sommes. Mais c'est intéressant de voir comment ils se développent en fonction de ce qu'ils voient en nous. Pas plus tard qu'hier, je crois que c'est Tonio qui me disait: mais je suis comme ça parce que tu es comme ça. Et c'était pas quelque chose de bien. Ça fait mal. La question, c'est: où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la prière? Est-ce que je sers le Seigneur? Est-ce que je mets du temps de côté pour son service? l'idée de la maison nous rappelle que nous avons une grande influence spirituelle sur ce qui nous entoure. Chacun doit se décider personnellement devant le Seigneur. Mais il est plus facile à un enfant de se décider pour le Seigneur s'il a vécu dans une famille qui servait le Seigneur. Et dans le livre des Actes, on voit plusieurs, au moins deux passages. Pierre dit à Jaffa, à celui qui le recevait, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Acte 11-14. Lorsque le geôlier était tout affolé parce que ses prisonniers avaient été libérés, Paul et Silas, ils répondirent : crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 27. L'importance de servir Dieu en famille. Il leur parle du danger d'être puni par Dieu comme autre argument. C'est intéressant parce que verset 16, le peuple répondit en ces termes: loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays, nous aussi nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Plein de zèle. Je serais très content, je dirais, c'est formidable, vous allez servir l'Éternel. Jésus leur dit, verset 19, vous ne pourrez pas servir l'Éternel. Car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Vous abandonnerez l'Éternel et que ceux que vous servirez des dieux étrangers se retournera pour vous faire du mal, il vous exterminera après que vous avez fait du bien. Le peuple dit à Josué : non, car nous servirons l'Éternel. Encore une fois, il y a une différence entre nos paroles et nos actes. Josué a visiblement du discernement. Il a vu qu'il y a encore des idoles dans le peuple d'Israël. Rappelez-vous qu'ils ne se sont pas débarrassés des peuplades païennes, idolâtres, qui habitaient le pays. Ils les ont tolérées, ils ont accepté ce compromis. tendance à oublier les choses. Et Dieu doit utiliser des rappels dans notre vie. La Sainte Cène a été instituée comme un rappel de ce que Dieu a fait pour nous. Nous parle de la mort de Josué qu'on enterre dans son héritage de Timnath-Séra, la portion abondante. Il dit que tous les jours de sa vie, le peuple avait suivi l'Éternel. Quel beau témoignage! Que la momie de Joseph a été aussi enterrée en terre promise, verset 32. Et finalement, le grand prêtre Éléazar est mort. Et on l'enterra sur la colline qu'on avait donnée à son fils Phinéas. Là, c'est déjà un petit signe qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Parce que Phinéas n'aurait pas dû avoir de territoire. Pourtant, c'était quelqu'un plein de zèle, nous l'avons rappelé. Mais l'influence païenne autour d'eux, ça a préparé de mauvaises choses, c'est le livre des juges. D'alors, il s'adresse à nous-mêmes. La vérité de la foi, elle va se manifester par les œuvres. S'il n'y a pas de service de Dieu, alors demandez-vous s'il y a une foi réelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider par nos propres forces, par nos bonnes résolutions. C'est en laissant Jésus agir à travers nous. Le secret du service, c'est la présence de Jésus en moi. Est-ce que vous avez poussé votre voiture jusqu'ici ce matin? Non, parce que vous avez utilisé le moteur. Le moteur dans votre vie spirituelle, ça doit être Christ en vous, rien d'autre. Pas les bonnes résolutions. Nous allons maintenant prendre la Sainte Cène qui nous rappelle justement ce que Dieu a fait pour nous. Et par sa grâce, nous pouvons dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen.